des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Décidément, la crise sanitaire que nous traversons aura eu au moins une vertu, celle de nous faire réfléchir à notre situation et à remettre en cause certains principes, certains axiomes réputés inébranlables, et à faire vaciller un tant soit peu nos certitudes. Parmi celles-ci, notre soi-disant toute-puissance a pris du plomb dans l'aile. Si certains s'y raccrochent encore, prévoyant que le vaccin viendra à bout de ce virus, il est difficile de nier notre impuissance pendant plus d'un an face à cet organisme microscopique. La crise sanitaire, c'est le sujet de notre nouvelle série d'émissions, deuxième épisode, en compagnie du docteur Dominique Demichel, médecin et psychanalyste. Dominique, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, l'épidémie du coronavirus qui a frappé la planète, pourrait-on dire, c'est pas la première fois que une grosse épidémie, une grande épidémie comme ça, touche l'humanité. On se souvient, plus célèbre, la peste noire, où la moitié des habitants de Londres, une personne sur deux, avait trouvé la mort, et une grosse partie de la population européenne. Et cette peste noire, elle était quelque part déjà liée à la mondialisation, parce qu'elle est arrivée dans les caisses, des navires, à Marseille, entre autres, et puis sur la côte, toute la côte méditerranéenne.
Petite, puisque vous en parlez là, petite pirouette avec un petit coup de pied pas très très sympathique du côté du monde économique. Il y a un article qui est paru dans Le Monde que j'ai pas lu, mais je l'ai aperçu hier, du Monde peut-être de la semaine dernière, donc mettons mi-novembre à peu près 2019, et qui étudie la mortalité selon le fait que les pays ont choisi l'économie ou ont choisi les vies humaines. Alors c'est assez intéressant de voir ça. Voilà, donc peut-être les gens peuvent retrouver ça. Ce que je voulais dire du côté du petit coup de pied, en particulier, on voit les États-Unis qui ont quand même en gros plutôt privilégié l'économie. On voit qu'ils le payent quand même très très cher. On peut se rappeler en tout cas que quand la peste arrive à Marseille, en fait, les gens qui sont sur les bateaux disent oui, il y a la peste. Donc, normalement, quarantaine. Hein, on mettait un drapeau en haut du bateau, je me souviens plus s'il était noir ou rouge, j'en sais rien, mais il y avait une couleur comme ça. Et tout le monde avait très très peur, et donc on n'approchait pas le bateau. Et donc, on a fait ça, et puis en fait, ce sont les marchands qui ont dit au bout d'un certain temps ouais, mais on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, on a fait rentrer les tissus. Dans les tissus, il y avait des puces. Et les puces, elles ont apporté la variole. Alors, cette peste noire, là, je mélange en fait deux histoires, mais en fait, c'est ça.
Oui, c'est le même, voilà, c'est le même fonctionnement, même de toute façon. Ouais.
Voilà, quand les Européens ont apporté des tissus aux Amériques, hein, par exemple, ils ont apporté la variole et plein de maladies. Et c'est probablement un des premiers grands génocides de l'histoire de l'humanité. Donc. Donc voilà, alors on peut revenir un petit peu plus loin, puisqu'il y a Thucydide. Thucydide, c'est un historien, enfin le grand historien, le premier grand personnage de l'Antiquité qui fait de l'histoire. On parle de lui en disant c'est le grand historien de l'Antiquité, qui parle de la peste d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis cette peste noire qui commence en 1348 et, comme vous le dites, qui va tuer énormément de gens. Alors vous m'apprenez pour l'histoire de Londres, c'est un effet tout à fait impressionnant. On ne sait évidemment pas très très bien combien de personnes elle a tuées, parce qu'il n'y avait pas de statistiques, même si les registres paroissiaux étaient quand même bien tenus. Il semble quand même qu'elle ait tué 25 à 30% de la population, hein, c'est-à-dire, on va dire, peut-être 25 millions de morts. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 25 millions de morts, c'est quelque chose d'absolument énorme.
Rien qu'en Europe. Hein.
Voilà, en Europe, bien sûr, hein, de l'Atlantique à l'Oural, on va dire, comme on dit. Hein. Donc, ça a énormément marqué les esprits. Je rappelle d'ailleurs à ce propos-là que sur le plan de l'iconographie chrétienne en particulier, c'est une bascule, puisque avant 1348, la grande majorité des représentations du Christ, c'est le Christ de Pâques. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir le Christ sur la croix, hein, comme si ça avait marqué tellement profondément les esprits que là, la figure, on pourrait dire, tutélaire qui fonctionne dans l'inconscient collectif de ces populations, c'est un homme en train de souffrir. Hein. Oui, et je trouve que c'est quand même très intéressant de voir ce changement-là.
Alors, la différence, c'est que dans la mentalité des personnes, qui soient soit de l'Antiquité, soit du Moyen-Âge, la question de la toute-puissance ne se posait pas. On souffrait donc des épidémies, des famines. On était tributaire du temps pour les moissons. Et s'il y avait une gelée, ben la partie de la famille périssait, du village périssait. Oui. On savait faire face au destin en courbant l'échine. On savait qu'on n'était pas tout-puissant. Que ce soit le destin pour les Grecs. On sait bien, les stoïciens, fais face à ton destin. Et puis, c'est la seule manière de vivre.
Oui, oui.
Et de la même manière, sous la chrétienté, la volonté de Dieu, elle est toute puissante. Mais depuis qu'on a décidé la mort de Dieu et la toute puissance de l'homme, ça nous fait tout drôle aujourd'hui. On n'était presque plus habitué à cela. On avait l'impression de pouvoir maîtriser notre destin. Et là, on se rend compte de notre vulnérabilité. Nous avons terminé notre dernière émission là-dessus. La médecine, que l'on pense très souvent toute puissante, finalement fait ce qu'elle peut, elle fait beaucoup. On ne va pas dire le contraire, évidemment. L'espérance de vie a augmenté. Mais elle est loin d'être toute puissante.
Elle est vraiment loin d'être toute puissante. Il y a des domaines dans lesquels elle est très performante. Ces domaines, ce sont la traumatologie, par exemple. Voilà, maintenant, une fracture, en gros, ça se termine relativement bien et le plus souvent sans séquelles, sauf les fractures trop délabrantes. Dans les maladies infectieuses de type bactérienne, en tout cas, c'est vrai que là, les antibiotiques ont apporté quand même un progrès. Dans la partie tuyauterie, si je puis dire, aussi ça marche bien. Quand on a un calcul dans la vésicule, on vous enlève maintenant la vésicule ou le calcul. Quand on a des calculs dans les reins aussi, on vous les enlève relativement facilement. Quand vous avez un petit peu trop de calcaire dans les tuyaux, alias cholestérol dans les coronaires, par exemple, eh ben on vous met des petits ressorts. Évidemment, on ne change pas grand-chose à l'origine de toutes ces pathologies. On ne change pas le fait que ça va continuer à se déployer à l'intérieur du corps. Mais en tout cas, ça arrange bien. Mais c'est quand même une partie marginale. Et avant de commencer l'émission, on évoquait la part des progrès médicaux dans l'augmentation de cette espérance de vie que vous venez de nommer là. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle est probablement, en tout cas, inférieure à 20%. Donc vous voyez, l'essentiel des progrès, en tout cas, du côté de l'espérance de vie, sont sûrement liés et à l'hygiène et à l'alimentation. Et puis probablement au fait qu'il y a moins d'accidents aussi quand même. Avant, il y avait des accidents qui étaient beaucoup plus nombreux. Maintenant, on est un petit peu plus prudent. Deuxième point que vous soulignez, et là, c'est tout à fait la notion la plus essentielle, c'est la question de notre vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est un mot important, ça vient du mot vulnus. Et vulnus, en latin, c'est la blessure. Donc, vulnérable, ça veut dire être à même de pouvoir être blessé. Cette vulnérabilité, c'est finalement notre condition humaine. Et là, on le voit bien, on l'a vu lorsqu'il y a eu des accidents importants, que ce soit des accidents nucléaires, que ce soit des tsunamis. On s'aperçoit à ce moment-là qu'on a beau déployer toute la puissance d'un État, toute la puissance de l'armée, toute la puissance des secours, et bien de temps en temps, il y a une quantité de morts absolument effroyable, ahurissante, et au fond, on n'y peut pas grand-chose.
Oui, mais face au séisme ou bien aux catastrophes nucléaires, on a l'impression encore de pouvoir maîtriser quelque chose. On a mis des capteurs partout et puis on se dit, s'ils avaient eu tel capteur à tel endroit, on aurait pu évacuer la ville. Ou qu'à des catastrophes nucléaires, évidemment, là, ce sont des erreurs qui peuvent être humaines. On a l'impression d'être en capacité, peut-être un jour, de pouvoir les maîtriser. Or, là, ça paraît difficile.
Oui, ça paraît en effet tout à fait difficile. Il faut se rappeler que d'autres maladies grippales comme ça ont été aussi très, très mortifères. Il faut se rappeler que la grippe de Hong Kong, elle a fait en France, par exemple, 30 000 victimes pendant l'hiver 68-69. Et pourtant, les journaux en ont très, très peu parlé. Le journal Le Monde, par exemple, a retrouvé ses unes de l'époque et on s'aperçoit que Alors qu'on pourrait dire que l'épidémie de Covid depuis le début de l'année, en fait, fait la une de pratiquement tous les journaux en France. Et toutes les unes, au fond, tous les jours, on ne parle finalement que de ça. À l'époque, c'était en page 5 ou en page 6, on n'avait pas beaucoup parlé. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. C'est la question, en effet, de notre vulnérabilité et du rapport à la maladie et à la mort. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi des choses qui sont tout à fait paradoxales. Peut-être 50 000 morts en France en raison de la pandémie actuelle. Mais il faut se rappeler qu'il y a plus de 75 000 personnes qui meurent chaque année du tabagisme. Hein. Alors vous évoquez, oui, mais il y a des choses qu'on peut prévenir, en effet, vis-à-vis peut-être d'une sécurité nucléaire ou de l'abandon du nucléaire. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de compétences là-dessus pour en parler. J'allais dire, le tabagisme, en tout cas sur le plan de l'idée, c'est pas compliqué. Hein. On pourrait imaginer déployer beaucoup d'argent, beaucoup de personnes pour arriver à accompagner les gens et les aider à arrêter de fumer. Et pourtant, ça n'est pas fait. Je rappelle aussi que la perception que l'on a en France de la mort est aussi très associée à la publicité, si je puis dire, qui en effet... Il meurt à peu près plus de 600 000 morts par an en France. Ça fait plus de 50 000 par mois. C'est-à-dire, il meurt 1750, c'est relativement stable depuis pas mal d'années, 1750 personnes par jour hein, en France. Voilà, donc ça en fait beaucoup par seconde. Vous voyez, c'est quand même bien important. Et puis que pendant l'année 2003, il y avait aussi eu 20 000 décès. Voilà, donc on voit bien que le rapport... en tout cas à la maladie et le rapport à la mort, est variable suivant les époques. Nous allons, je pense, l'occasion largement d'y revenir, en se rappelant aussi, j'ai envie d'y revenir parce que peut-être c'est quand même important, c'est qu'au moment de la peste noire, on a inventé des systèmes d'adaptation, c'est-à-dire on a fait des lazarets, ça a renvoyé à Lazare, on a fait des bouclages de territoire. Il y a eu un moment, je ne sais plus trop à quelle époque, où on a utilisé, je crois, peut-être le tiers de l'armée française a été utilisé pour faire une sorte de barrage qui allait en gros de Bordeaux jusqu'aux Alpes, en passant par le Massif central, pour empêcher les gens du sud de remonter dans le nord. Vous voyez, hein, en gros, c'est jamais que la même chose que le confinement.
Alors, docteur Desmichel, c'est intéressant parce que vous citez des chiffres et effectivement, ces chiffres sont parlants. Cependant, ces chiffres sont aussi le reflet de cette dictature des mathématiques, des statistiques. On croit pouvoir comprendre le monde avec des chiffres, que ce soit ces chiffres de mortalité ou bien ceux du chômage, etc. Et on oublie très souvent, ou de migration, et on oublie très souvent que ces chiffres ne veulent rien dire, sont totalement abstraits et que les individus qui sont derrière ne sont absolument pas représentés par ces chiffres. Et là, on a le sentiment qu'on se le prend comme un boomerang en pleine figure parce que ces chiffres sont aussi susceptibles de créer la panique. Oui. Et cette une des journaux, ce sont des chiffres qui apparaissent et on l'a vu dans les chaînes d'information continue avec en bas, pendant le premier confinement, les chiffres qui augmentaient jour après jour. Et ça, on a eu des témoignages de gens qui disaient, c'est ça qui m'a fichu le plus la trouille, c'est de voir ces chiffres qui augmentaient.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les chiffres ont leur importance, hein, quand même, parce que à notre époque, peut-être on aura aussi l'occasion d'en reparler, à notre époque où la pensée scientifique est en train de perdre une partie de sa crédibilité, non pas en raison de ce qu'elle fait, mais en raison du savoir qu'on lui prête, ou plus exactement qu'on ne lui prête plus, c'est évidemment pas du tout ma pensée. Hein. Je crois que les sciences disent des choses extrêmement rigoureuses et que la vérité, en tout cas sur le plan de la véracité factuelle, elle est indiscutable. Hein. La rigueur scientifique, la méthode scientifique, c'est vraiment une déontologie de l'esprit. Mais c'est vrai qu'on voit actuellement, par exemple, les épidémiologistes, c'est-à-dire les gens qui sont là pour réfléchir sur... qu'est-ce que c'est qu'une épidémie? À partir de quel moment elle devient une épidémie? Comment elle se propage? Où sont les lieux de contamination? Eh bien, souvent, ils s'arrachent le peu de cheveux qui leur reste sur la tête. Hein. Et vous voyez, par exemple, actuellement, là, on est mi-décembre 2019. Je dis ça parce que parfois, les émissions sont un tout petit peu décalées. On ne sait pas très bien comment se contaminent les gens. On ne sait pas. Les lieux de contamination, on ne sait pas très très bien. Vous allez me dire, mais pourtant, il y a des gens qui utilisent des logiciels extrêmement puissants. Il y a des gens qui ont des grosses têtes et qui travaillent ça depuis très longtemps. Eh ben non, là aussi, on voit que même par rapport à ces chiffres que vous évoquez et que dans une certaine mesure, vous convoquez comme s'ils étaient là pour donner une sorte de vérité absolue et entre guillemets rassurante, eh ben on s'aperçoit que ces chiffres-là, ben finalement, ils nous laissent dans une expectative et une forme d'anxiété qui n'est pas facile à vivre.
Les chiffres, nous en avons parlé, il y a aussi le système hospitalier en France qui nous est envié dans le monde. Très souvent, on se lève pour dire que finalement en France, on n'est pas si mal. On a la sécurité sociale, on a les soins qui sont plus ou moins gratuits à l'hôpital et puis on pensait avoir un hôpital très performant. Or, avec cette crise, on s'est rendu compte que la vulnérabilité, elle était là au cœur du système sanitaire. Et les premiers à le dire, c'était les soignants, c'était les médecins, en tirant le signal d'alarme. C'est pas la première fois qu'ils tiraient à l'hôpital de Dreux. Ça fait des années qu'il y a des pancartes de la CGT affichées sur le grillage de l'hôpital.
Oui, tout à fait. Tout à fait. La plainte des soignants à propos du mode de fonctionnement hospitalier est une plainte ancienne, qui ne date pas du début de l'année 2020, mais qui date de plusieurs années. De plus en plus, les hôpitaux ont été gouvernés, entre guillemets, non pas essentiellement par des soignants, mais par des administratifs. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des administratifs qui rappellent que le budget n'est pas extensif, encore qu'on s'est aperçu que depuis le début de l'année, d'un seul coup, il y avait plein de milliards qui tombaient d'un peu partout. Ça pose énormément de problèmes. Moi, ça doit faire 23 ans, un peu plus, je pense 23 ans que je travaille à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on a vu au fur et à mesure les moyens diminuer, le nombre de secrétaires, d'aides-soignantes et d'infirmières diminuer, les postes de médecins aussi qui n'étaient pas renouvelés. Donc c'est un vrai problème. Je pense que cette épidémie, j'espère qu'on aura l'occasion aussi d'en reparler, vont peut-être remettre le soin au cœur d'un projet sociétal, au fond. Ça, c'est tout ce qu'on appelle la pensée philosophique autour du care. Le care, c'est juste prendre soin, donner de l'importance aux soins. Alors, on va voir si on en rediscute que ça n'est pas sans problème non plus, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas tout rose. Il ne s'agit pas de dire maintenant on va abandonner l'économie et on va dire qu'il n'y a que la santé qui compte et l'important, c'est que d'être en bonne santé. Non, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il ne s'agit pas que le mode de vie soit déterminé uniquement par des conditions hygiéniques, par exemple, vous voyez, comme ça. Mais en tout cas, ça pose un vrai problème et je crois que nous payons en ce moment une politique de la santé qui a été quand même assez désastreuse ces dernières années.
Politique de la santé qui se reflète dans toute la société, à mon sens, dans tous les domaines de la société, qui est celle, j'y reviens, de la dictature aussi du chiffre. Oui. Ça, c'est les soignants qui l'ont dit. Ils sont obligés de fonctionner sur des statistiques, des nombres d'opérations. Enfin, vous le savez bien mieux que moi.
Ça s'appelle la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'acte. C'est-à-dire, plus on fait d'actes, plus on a d'argent.
Et on arrive avec toujours des chiffres et des chiffres, des algorithmes qui nous gouvernent. Et là, on sent aussi deux sociétés qui ont... Enfin, en tout cas... de courants qui commencent à s'opposer, qui se radicalisent peut-être encore plus, des gens qui disent le système qui nous materne depuis tant de décennies avec ces fabuleuses années 80, cet âge d'or de l'économie, c'est lui qui est en cause, semble-t-il.
Je pense que sur le plan technique, le système de santé français, que ce soit en médecine libérale ou en médecine hospitalière, est un système de santé qui fonctionne bien et qui est performant, sur le plan technique. Mais sur le plan humain, c'est pas du tout la même chose. Quand on sait par exemple qu'un acte technique va rapporter, mettons, 100 euros, mais que cet acte peut être fait éventuellement en 10 minutes, parce que ça nécessite un appareillage qui coûte cher, un médecin qui soit très compétent, mais au fond, c'est coté de telle façon que ça rapporte 100 euros, quand on écoute un patient pendant une heure et qu'il souffre, ça peut rapporter 25 euros. Voilà. Alors évidemment, on voit bien que les responsables de la bourse de l'hôpital préfère qu'on multiplie les actes qui rapportent à chaque fois 100 euros. Et je le vois bien, moi, par exemple, à la consultation douleur. Hein. La consultation douleur passe par beaucoup de temps passé et sur l'histoire et sur la géographie de la maladie, mais aussi sur le champ social dans lequel vivent les personnes qui ont des douleurs chroniques et souvent des souffrances chroniques. Et on voit bien que là, ça devient tout à fait compliqué.
Eh bien, nous ouvrons justement le champ de cette crise sanitaire qui n'est a priori pas uniquement sanitaire, mais comme nous venons le dire, qui est véritablement sociétale, mais qui est aussi environnementale.
Voilà, je pense que ce qui est extrêmement problématique actuellement, c'est que cette crise n'est pas seulement une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise climatique, avec tout ce qui tourne autour des cultures vivrières, de l'arrivée de ces insectes qui sont porteurs de maladies tropicales, et les insectes avec le réchauffement remontent, et il n'est pas impossible que bientôt on voit des cas de chikungunya en Europe, de dengue aux États-Unis, de paludisme, pourquoi pas à Marseille, il y a d'ailleurs quelques cas de paludisme importés à Marseille, des encéphalites virales, et pourquoi pas, je sais pas, le virus Ebola qui pourrait se déployer en Europe. Alors le virus Ebola a une mortalité absolument effrayante. Et puis il y a tout ce qui tourne autour du climat aussi, avec la montée des eaux, on pense au Bangladesh, à la Floride, à New York, qui sont des zones extrêmement peuplées au ras de l'eau, on pense à l'acidification des océans, à la précarisation d'énormément de gens dans le monde. Et puis en même temps, une sorte d'angoisse de fond avec une montée de la violence dans les réseaux sociaux, par exemple, de temps en temps dans le manque de civilité, par exemple. Hein. Je trouve par exemple très très troublant que les pompiers, là, se soient cette année fait énormément agresser, par exemple, alors que c'est un métier qui, évidemment, est un métier de service. Mon propos, ce n'est pas de juger hâtivement les gens qui agressent les pompiers, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qui se joue dans le fait qu'une figure comme ça, on voit ça aussi chez les soignants, qui certes ont été applaudis pendant pas mal de temps, mais de temps en temps sont aussi très, très agressés. Mon propos, ce n'est pas de stigmatiser quiconque, mais de se dire comment on peut essayer de réfléchir là-dessus, en essayant de comprendre ce qui se passe.
Docteur Dominique Demichel, nous allons essayer de creuser effectivement cette question des crises. En revenant à ce dont nous parlions au cours de notre première émission, avec l'idée du pourquoi, de la punition, je mets évidemment des guillemets autour de punition, c'est une question dont on ne peut pas faire l'économie.
Oui. Je crois qu'au fond, il y aurait en quelque sorte deux approches par rapport à ça. Je précise bien qu'il ne s'agit pas pour moi de faire une sorte de lecture fataliste de cet événement, mais au contraire d'essayer de repérer ce qui émerge à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pourrions, par exemple, penser qu'une sorte de punition touche l'humanité, par exemple parce que nous avons exploité la planète, cette planète qui nous accueille, qui nous nourrit, qui nous protège. Et par exemple, pouvoir se dire que 40% des espèces sauvages ont disparu en 40 ans, ça fait énormément frémir. Je sais que dans le jardin que nous habitons, voilà, les bouvreuils, par exemple, on n'en voit plus du tout. Voilà. Évidemment, c'est un petit peu anecdotique, mais il y a quelque chose qui est un petit peu triste là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, dans cette perspective-là, qu'au fond, on penserait, ou qu'on traite plutôt l'univers comme une sorte d'interlocuteur, comme une espèce de personne. Ça voudrait dire, au fond, que la Terre est comme une sorte de personnage qui nous observe, qui nous regarde, et qui serait là, au fond, pour nous dire « attention, il y a du danger ». On retrouve ça dans ce qu'on a appelé l'hypothèse Gaïa, hein, qui est James Lovelock, qui est cet auteur anglais qui a écrit un livre il y a longtemps, où c'est une métaphore bien évidemment, il a dit que la Terre était comme une sorte de personne et que de temps en temps elle pouvait avoir des soubresauts, presque on pourrait dire de souffrance, il me semble. Donc je crois que pendant très très longtemps, toutes les souffrances de l'humanité ont été comprises comme cela. Et comme on le disait à la première émission, lorsqu'une souffrance profonde nous touche, on se dit « et pourquoi moi ?» C'est la question de Job, on en avait parlé la dernière fois. C'est la parole du père Panulou dans La Peste qui dit que c'est une punition divine. Évidemment, il navigue un petit peu sur une espèce d'heuristique tragique de la peur qui a été une espèce de fond de commerce pendant très très longtemps de nombreuses religions. Et puis on pourrait dire toujours dans cet aspect-là que notre sensibilité un peu écolo pourrait nous faire ressentir une espèce de petite joie un peu suspecte, pas très, très honnête, un petit peu mauvaise, de penser au fond que l'humanité l'a bien mérité. On pourrait se dire comme ça, alors c'est un petit côté un peu sadique, on n'ose pas se le dire. Mais cette approche-là pourrait au fond nous rassurer de manière un peu fantasmatique en nous disant « Voilà, il y a quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes qui est en train de nous dire « Et les humains, là, c'est plus possible ». Je vous envoie un grand coup de pied dans les tibias, tâchez de réfléchir. »
Nous avons le sentiment d'être débarrassés de cette pensée-là, libérés de cette pensée-là. Oui. Mais est-ce un bien ? L'homme converse avec lui-même, est tout seul dans l'univers, tout seul avec ses problèmes. Dieu est mort, on a fait un grand feu de joie pour fêter ça. Et quoi après ? C'est le fameux nihilisme qui touche très profondément notre société. Et oui, peut-être qu'on a besoin de converser avec quelqu'un, que ce soit Dieu, Gaïa ou quiconque.
Voilà, ou le destin. Ou le destin. C'est-à-dire, au fond, le sens du monde. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut non pas trouver une sorte d'explication causale simple, parce que vraisemblablement, il n'y a pas d'explication causale. Il faut rappeler que le virus n'a aucune intention malveillante. Il n'y a pas un collectif de virus, un jour, qui, en Chine ou ailleurs, s'est réuni, a fait un grand congrès, et a dit, tiens, on va essayer de se faire un grand plan de communication, et on a envie qu'on parle de nous, et voilà. Et puis, le virus, de toute façon, il est un parasite des cellules humaines, il ne vit pas tout seul. Une bactérie, ça peut vivre pendant un certain temps, il suffit d'un petit peu d'eau, un peu de sucre, un peu de lumière, et puis en gros, ça suffit, ça peut vivre longtemps. Un virus, non, ça vit très très peu de temps sur une surface un peu inerte et neutre. Voilà, donc c'est bien important de se dire ça, c'est-à-dire il n'y a pas d'intention dans cette épidémie, mais il y a quelque chose qui peut-être peut se révéler inscrit dans le cadre d'une causalité qui a du sens. Alors, tout le monde en a parlé, que ce soit de la chauve-souris, des pangolins, de la proximité entre le monde sauvage et le monde des humains, par exemple, ce qui est quelque chose qui est probablement tout à fait dramatique. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier, au fond, pour reprendre ce que je disais la dernière fois, il ne faut pas oublier Rousseau, hein, c'est-à-dire Rousseau qui parle des conditions qui ont fait que le tremblement de terre de Lisbonne a fait tant de morts. Il ne faut pas oublier que s'il y a peut-être une sorte de hasard biologique, des conditions, vous aviez évoqué, vous, la mondialisation, donc les transports, on sait très bien que si cette épidémie est apparue dans le nord de l'Italie, c'est parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contacts entre la Chine et le nord de l'Italie, hein, l'Italie industrielle. Voilà. Mais à partir de ça, le virus ne vit que comme un hôte. Nous sommes donc dans une relation avec ce virus et il y a lieu d'essayer de comprendre comment a pu émerger sur le plan scientifique cette épidémie, mais aussi tout ce que ça peut révéler, j'allais dire peut-être d'une faille de notre rapport au vivant en général.
Docteur Dominique Desmichel, un grand merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Simon, au revoir.